Isaac Franco, bonjour.
Bonjour Blaise.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, nous apprenions en début de semaine le décès de Jimmy Carter, l'ancien président américain, 39e président, 39e mandat américain. Alors, l'unique mandat du démocrate a été marqué par ces accords de paix entre Israël et l'Égypte, hein, les accords de Camp David. Il a ensuite été très critique sur la politique israélienne à l'organe, à, pardon, à l'encontre des Palestiniens.
Oui, on a. Alors, les hommages ont été dithyrambiques, en ce compris ceux venant des autorités politiques israéliennes, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le président de l'État juif Isaac Herzog. Ils ont été d'un hommage très, très appuyé. Mais on rendait surtout hommage au président, enfin, je veux dire, à la qualité au statut de président des États-Unis, 39e président des États-Unis. Pour le reste, oui, on a retenu de son unique mandat, catastrophique d'ailleurs, puisque tout le monde s'accorde à reconnaître que Jimmy Carter est un des plus mauvais présidents des États-Unis du XXe siècle, sinon le plus mauvais. On a retenu, à bon droit d'ailleurs, la signature des accords de Camp David entre Menachem Begin, qui était alors Premier ministre d'Israël, et Anwar el-Sadat, président égyptien. Mais il faut savoir que si les États-Unis ont été les médiateurs dans ces négociations qui ont duré une douzaine de jours, c'est Anwar el-Sadat qui a provoquer cette médiation et qui a permis à Jimmy Carter de sauter dans la brèche, parce que Anwar el-Sadat, dès 1977, c'est-à-dire 2 ans avant la signature de ces accords, s'était rendu, vous vous en rappelez certainement, en tout cas nos auditeurs les plus anciens s'en rappellent, s'était rendu à Jérusalem dans un voyage tout à fait historique, tout à fait extraordinaire, qui a profondément marqué les esprits, pas seulement en Israël, mais partout ailleurs dans le monde. Et donc, Jimmy Carter a sauté dans la brèche et a permis la normalisation, la signature d'un accord de paix entre l'Israël et l'Égypte. Une paix froide, certes, mais qui a résisté à toutes les épreuves du temps, parce que depuis presque un demi-siècle, eh bien, cet accord de paix n'a jamais été remis en question, même s'il y a eu des moments où il a été un peu fragilisé, particulièrement lors du mandat très court de Morsi à la tête de l'Égypte. Pour le reste, eh bien, Jimmy Carter s'est distingué par une obsession anti-israélienne qui ne s'est jamais démentie. Le temps du reste de son mandat, jusque janvier 81, où il a été littéralement balayé par le candidat républicain Ronald Reagan. Et puis, dans les 40 ou 45 ans de vie politique qu'il a eue après son unique mandat. Dans les années 80, figurez-vous, il n'était donc plus président. Jimmy Carter a déclaré que Israël violait la résolution 242 de novembre 1967, celle qui a suivi la guerre des six jours, celle qui a sanctionné la guerre des six jours. Donc déclare qu'Israël viole la 242 et la non-création d'un État palestinien, alors que la 242 stipule très très précisément que Israël doit se retirer de territoire et pas des territoires, et donc que la présence d'implantations au-delà de la ligne verte, qui signifiait un peu des frontières indéfendables, eh bien, n'était pas interdite par la 242. Quant à la création d'un État palestinien, aucune mention n'est faite dans la résolution 242. Et depuis, une même obsession a parcouru toute sa vie politique jusqu'à un livre qu'il a écrit en 2004 qui s'appelle Palestine Peace, Not Apartheid, qui pour la première fois aux États-Unis accusait Israël d'apartheid et légitimait la délégitimation de l'État d'Israël.
Oui, il compare d'ailleurs dans ce livre, je cite, quand Israël occupe une grande partie de la Cisjordanie, relie par des routes quelques 200 colonies, mais interdit aux Palestiniens de les utiliser ou même souvent de les traverser, ce sont des formes de ségrégation ou d'apartheid telles que ce qu'on a connu jadis en Afrique du Sud.
Oui, c'est ça, c'est un précurseur de cette accusation portée contre l'État d'Israël de pratiquer une politique d'apartheid, une accusation qui a fait florès depuis. Puisque désormais, un grand nombre de dirigeants s'accordent pour dire que Israël pratique une politique d'apartheid comparable à celle qui a été pratiquée par l'Afrique du Sud. Et on a été même plus loin, puisque d'occupation on est passé à apartheid. De apartheid, désormais, on accuse Israël de génocide. Alors, l'antisémitisme, parce qu'il n'y avait pas que son obsession anti-israélienne, il y avait également une fibre antisémite évidente, transparente, puisqu'il critiquait sans cesse les juifs laïcs pour ne pas respecter les lois divines et les juifs religieux pour les faire vivre dans leur quotidien. Ce qui veut dire que de gauche comme de droite, laïcs comme religieux, rien de bon ne pouvait jamais venir des juifs. Mais accuser Israël ne lui suffisait pas. Il a consacré ses dernières décennies à blanchir le Hamas, qu'il présentait comme une organisation opposée à la terreur et engagée dans la recherche de la paix. Il a refusé, après sa présidence, de rencontrer les leaders israéliens, mais en revanche, il a embrassé les leaders du mouvement terroriste et génocidaire du Hamas, Khaled Mashal et Haniyeh. Mais ce n'est pas tout. Il a soutenu le rapport Goldstone en 2008-2009, qui a été désavoué d'ailleurs par son auteur, qui accusait Israël, donc déjà il y a pratiquement 16-17 ans, qui accusait Israël d'organiser la famine à Gaza. Et quant aux tunnels du Hamas, pour Jimmy Carter, c'était des tunnels défensifs creusés à l'intérieur des murs de la prison de Gaza. Il était tellement mauvais président qu'il n'avait même pas été invité par Barack Obama lors de sa campagne de 2007, qui précède son élection dans le premier mandat en 2008. Et enfin, j'ai ici cette citation de Howard Gutman, qui est l'ambassadeur des États-Unis en Belgique, désigné par Barack Obama, dans les années 2010, il va déjeuner avec Jimmy Carter en 2011. Je lis sa déclaration. In 2011, I had breakfast with Jimmy Carter. He was a hateful, foolish, anti-Semite man. Je traduis pour les rares auditeurs qui n'auront pas compris. En 2011, j'ai déjeuné avec Jimmy Carter. C'était un homme haineux, follement antisémite.
Alors, vous avez parlé de ce livre, Palestine, la paix, pas l'apartheid. Au moment de sa sortie, il a estimé que la critique d'Israël était devenue quasiment impossible aux États-Unis. Il espérait que ce livre permettrait d'ouvrir un débat qui n'a jamais eu lieu, ce sont ses mots. Est-il le président le plus anti-israélien que les États-Unis ont connu ?
En tout cas, il a ouvert la voie à la normalisation et à la banalisation de la critique d'Israël qui va bien au-delà de la critique politique, bien au-delà. Et il a ouvert la voie à ces accusations portées contre l'État d'Israël, je disais, d'occupation illégale, selon ses mots, d'apartheid et de génocide, puisqu'il a accusé Israël d'installer une forme de famine contre les habitants de Gaza. Alors, dire est-ce que c'est le plus antisémite ? En tout cas, au XXe siècle, oui, c'est vraisemblable, même s'il y en a eu d'autres qui ne manquaient pas de certaines saillies antisémites. Je pense à Richard Nixon, par exemple, qui était un antisémite, qui a eu des sorties marquées sous le sceau de l'antisémitisme, mais qui a néanmoins observé une politique pro-israélienne. Barack Obama ne brille pas dans le panthéon des présidents américains qui auront été bienveillants à l'égard de l'État d'Israël, puisque tout au long de ses deux mandats, il n'a pas manqué de décocher des flèches à l'endroit d'Israël, considérant que la présence israélienne en Judée-Samarie était illégale au regard du droit international et le principal obstacle pour l'émergence d'une solution politique. Il y a certainement Jimmy Carter, si on ne devait retenir que cet accord de paix israélo-égyptien de 1979 figurerait certainement au panthéon des présidents américains pour la mémoire collective israélienne. Il aurait certainement un tas de rues en Israël qui porteraient son nom. Ça n'est pas le cas, parce que tout le reste de son parcours, tout le reste d'abord de sa présidence jusque janvier 81, et puis pendant les 40 ou 45 ans qui ont suivi sa présidence, ont été marqués du sceau d'une critique continuelle, de l'État d'Israël et de ses citoyens.
Mmh. Isaac Franco, on arrive déjà à la fin de notre entretien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans la matinale de Radio Judaïka. Et puis on vous retrouve lundi 17h pour chercher l'erreur.
Certainement. Merci pour votre invitation. Au revoir.